Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Jeudi 22 mars 2018, à l'appel d'une intersyndicale interprofessionnelle de la fonction publique, une mobilisation d'envergure nationale a rassemblé dans les rues des centaines de milliers de personnes. À Lille, où nous nous sommes rendus, une dizaine de milliers de manifestants, en ordre de marche, toutes professions confondues, cheminots, hôpitaux, collectivités territoriales, étudiants ou enseignants, cette liste est non exhaustive, étaient unis pour manifester contre la politique de dévoiement du service public, la précarisation des emplois, la flexibilisation du personnel, l'austérité budgétaire, enfin. On remonte le cortège au fil de ce reportage, essayant de restituer les doléances par secteur et les aspirations collectives. On commence avec un militant FSU de la fonction publique qui évoque la réforme CAP 2022.
Alors il y a des revendications fonction publique, il y a des revendications éducation avec la réforme du bac, du lycée et Parcoursup, le dispositif de sélection, ségrégation. Hein. Alors pour ce qui est de l'action publique 2022, on constate en fait la même chose que ce qui s'est passé dans le privé cet automne. C'est-à-dire que Macron, le gouvernement, veut absolument museler, les instances représentatives. Donc, par exemple, pour nous, il réduirait les prérogatives des commissions paritaires. Voilà. Et il y aurait de plus en plus de choses qui se feraient administrativement, automatiquement, sans concertation avec les représentants des personnels. Il envisage aussi, comme pour nos camarades cheminots, de bloquer l'embauche d'emplois statutaires pour avoir de plus en plus recours à des contractuels. Il envisage même que des jeunes étudiants à peine sortis de licence, qui n'ont encore eu aucune formation à l'éducation et à l'enseignement, puissent être engagés comme contractuels à tiers-temps, donc avec une aumône de 400-450 euros par mois, ce qui, d'une part, leur permettra pas de vivre, et d'autre part, leur permettra pas de poursuivre des études sereinement. Voilà le cadre général.
Le cadre général, c'est aussi l'austérité budgétaire, parce que avec l'horizon de CAP 2022, c'est de faire 4,5 milliards d'économies par an.
Oui, bah alors, cette histoire d'économie budgétaire, on nous la vend essentiellement sous le nom du remboursement de la dette publique. Hein. En fait, depuis que l'État français a signé ce qui s'appelle la règle d'or européenne et donc la limite de déficit de 3%, hein, il se plie à ce diktat européen. Hein, et du coup, ils font des économies là où c'est le plus facile d'en faire, c'est-à-dire sur tout ce qui touche les services publics en général, la fonction publique en particulier, puisqu'il y a une petite nuance quand même entre les deux terminologies. Alors, en matière d'économie, on voit les annonces qui ont été faites pour l'armée, hein, et notamment pour tout ce qu'ils appellent les OPEX, donc les opérations extérieures, c'est-à-dire aller faire la guerre dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, quand dans un corps de métier, hein, on crée pour le même travail deux catégories de personnes. Si je reste sur la fonction publique, des emplois statutaires et des contractuels, on casse toute la solidarité du métier. Hein, et en même temps, on se préserve d'un pas mal de luttes sociales, puisque pour les mêmes métiers, les enjeux ne seront pas les mêmes et la mobilisation s'en ressentira. Donc c'est une démarche beaucoup plus idéologique que financière, économique.
Les conséquences de l'austérité budgétaire dans les hôpitaux commencent à avoir des effets très très néfastes. Est-ce que vous pouvez témoigner de ça dans votre CHR ?
Oui, donc moi je suis du JUS CHR de Lille. Donc évidemment, donc au niveau national, hein, de toute façon, ce qu'on va pouvoir dire sur le CHR de Lille, on pourra le dire partout. Vous avez sans doute vu aussi que depuis ces derniers mois, il y a une soixantaine de services d'urgence dans tous les hôpitaux de France qui sont en grève et en conflit. Ce qui se passe dans les services d'urgence, c'est exactement la conséquence de toutes les politiques d'austérité, de suppression de lits, de transformation de lits en places d'ambulatoires. Qui fait que quand vous avez une influence aux urgences, forcément ça sature, puisqu'une fois que les gens sont soignés aux urgences, il n'y a plus de lits pour aller les hospitaliser dans les étages. À partir du moment où on ne peut pas les monter dans les étages, ben, ça reste saturé aux urgences, vous avez des files d'attente, vous avez des salles d'attente bondées, et vous avez des tensions qui se créent évidemment, vous avez de la violence. Donc tout ça, véritablement... Le nœud de l'hôpital, c'est le service d'urgence. C'est la porte d'entrée de l'hôpital. À partir du moment où à la porte d'entrée de l'hôpital, ça sature, c'est que tout le reste derrière est saturé. Donc voilà, quand on voit qu'il y a une soixantaine de services d'urgence au niveau national qui est en grève, en conflit et qui dénonce hein, justement les files d'attente et l'incapacité, l'impossibilité aujourd'hui de prendre en charge les gens dans des délais courts est nécessaire parce que quand on se présente aux urgences, c'est que en général c'est nécessaire. Qui implique d'ailleurs dans certains services d'urgence qu'il y a eu des patients décédés en attente. Donc dans un hôpital public, à un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas tolérable ce qui est en train de se passer. Donc on a un service des urgences qui est complètement saturé, avec une prise de risque pour les patients qui se retrouvent dans les services d'urgence. Et on nous dit qu'on va continuer à supprimer des lits, à fermer et à transformer des lits en ambulatoires. Donc ils continuent la même politique. Le deuxième point, c'est qu'on nous dit que l'hôpital public, il faut faire des économies, il n'y a plus d'argent dans ce pays, les caisses sont vides, on a une dette, les fonctionnaires coûtent cher. Donc voilà, hein, c'est tout l'AIUS qui est servi dans la presse depuis des semaines, des mois, voire des années. Et que ce n'est pas très grave, puisque l'hôpital public, il doit ouvrir ses portes et ses murs vers la ville et donc renvoyer les patients vers les médecins généralistes et vers les spécialistes qui ont des cabinets libéraux en ville, sauf que eux-mêmes sont surchargés. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas absorber. Prenez un rendez-vous aujourd'hui chez un ophtalmo, prenez rendez-vous chez un cardiologue, vous avez plusieurs mois d'attente. Donc ils ne sont pas en capacité de toute façon d'absorber l'activité que l'hôpital leur renvoie. Et tout ça, on le sait. Tout le monde le sait. Et si moi, agent de base dans un CHR en France, je suis au courant et j'analyse ça, je pense qu'au niveau politique, ils l'analysent. Parce que s'ils n'analysent pas, c'est qu'ils sont sacrément incompétents.
Pourquoi aujourd'hui, ben vous êtes dans la rue pour manifester ? Donc, Alliance, la police nationale.
Oui, bien sûr, mais comme tous les fonctionnaires qui sont ici aujourd'hui pour la baisse de notre pouvoir d'achat.
Et puis peut-être aussi sur les conditions de travail.
Tout à fait, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles et il faut toujours faire plus avec moins. Moins de budget alloué, moins de matériel et ça devient très compliqué de travailler correctement. Avec peu de moyens, c'est très compliqué. Et aussi, la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires. Que va devenir le service public ? Oui, le jour de carence a été rétabli pour tous les fonctionnaires. À partir du premier jour de maladie, le fonctionnaire n'est plus payé. Donc sur des salaires qui ne sont quand même pas très élevés, ça fait un gros manque à gagner. Et des gens vont hésiter de se soigner ou reprendre avant d'être complètement guéri. Et ce qui va coûter encore plus cher au final, parce qu'il faudra re-soigner derrière.
Est-ce que vos collègues, finalement, qui ne peuvent pas manifester, comment on voit votre mobilisation ?
Ah bah les collègues sont tout à fait de notre côté, ils comprennent notre mobilisation, ils nous soutiennent. Malheureusement, on aurait aimé qu'il y ait encore plus de monde. Il y a déjà du monde, mais si tous les collègues avaient pu se joindre à nous, ça aurait été mieux.
Et peut-être, est-ce que vous allez continuer par la suite à vous mobiliser ?
Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. On verra déjà aujourd'hui les retombées de notre mobilisation. Et oui, bien sûr, on est prêt à continuer.
J'ai lu ce matin même un rapport de la CGT qui faisait une analogie avec France Télécom et qui du coup accusait le gouvernement de duperie dans le sens où il tentait de faire une privatisation en catimini avec l'ouverture du capital. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus ?
Ça fait des années où la CGT dit qu'on veut privatiser la SNCF et on fait tout pour y arriver. Les faits sont là aujourd'hui, c'est qu'on stigmatise le statut du cheminot pour détruire derrière le service public. On nous parle de la dette des SNCF, mais la dette, ce n'est pas les cheminots qui l'ont fait la dette. C'est tous les gouvernements successifs qui n'ont pas investi, qui n'ont pas repris la dette. Et aujourd'hui, on en est à ce que la SNCF soit complètement endettée. Voilà.
On se doute bien que la SNCF, que les cheminots vont être accusés d'avoir pris en otage la population. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
J'aime pas ce terme otage. Aujourd'hui, on se défend. Effectivement, ça gêne les usagers qu'il n'y ait pas de train, mais c'est notre seul moyen où on a aujourd'hui de s'exprimer. Voilà. Et c'est pas faute d'avoir prévenu le gouvernement à plusieurs reprises qu'il y aura un mouvement dur aujourd'hui. Il ne veut rien entendre. Eh bien, on persiste dans le mouvement dur. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait de la privatisation et tout le problème que ça pose, c'est qu'on se doute que dans des conditions telles, on ne pourra plus faire du train un service public. Et notamment, les deux prérequis à ça, ce serait l'égalité d'accès et péréquation des tarifs.
Oui, bon, effectivement, aujourd'hui, il y a sur le dossier du gouvernement, c'est aujourd'hui, on supprime des lignes TER. Alors que forcément, quand vous parlez d'égalité de traitement, c'est-à-dire que les lignes qui aujourd'hui ne seront pas rentables seront fermées. Alors, on a beau dire qu'on fermera pas, mais on sait qu'à terme, ces lignes seront reprises par les conseils régionaux qui seront ils n'auront pas les moyens d'entretenir les lignes. Donc forcément, il y aura faire des fermetures de lignes. Donc forcément, égalité, traitement envers tous les usagers. Deuxièmement, sur les tarifications, on voit dans les pays où on a ouvert la concurrence que les prix ont explosé. Je prends par exemple l'Angleterre, où aujourd'hui les tarifs sont multipliés par 6, où on demande retour à la nationalisation des chemins de fer. Donc une fois encore, ça prouve que voilà, où est-ce qu'il y a privatisation, il y a forcément augmentation des tarifs et pas forcément un meilleur rendu aux usagers.
Donc j'imagine que l'objet de la mobilisation pour les professeurs de lycée, c'est la réforme du bac.
C'est ça, tout à fait.
En quoi ça vaut le coup de s'y opposer ?
Alors parce qu'en fait, on va augmenter la sélection au niveau de l'université. Et surtout, c'est que le baccalauréat va perdre son statut de premier grade universitaire, ce qui fait qu'il ne donnera plus automatiquement accès à l'université. Donc, possibilité d'écrémage, de tri social, et ce qui va carrément à l'encontre de l'objectif du service public et de l'école républicaine.
Alors, on a dit également que ça allait favoriser, individualiser les lycéens, les isoler.
Alors, et même plus grave que ça, c'est qu'on sait qu'il y a des start-up qui sont montées sur l'île et qui proposent contre rémunération entre 300 et 500 euros pour monter un dossier tip-top pour que le gamin puisse intégrer les meilleures écoles.
Est-ce que ça va impacter les profs aussi ?
Bah, compte tenu qu'il va y avoir fusion de certaines filières, on va certainement se retrouver avec une réduction des effectifs, donc des pertes de postes qui vont se répercuter. Sachant que Macron a promis la suppression de 120 000 postes, l'éducation nationale a contribué à hauteur de 25 000 postes. Donc il faut bien trouver ces postes-là quelque part.
Je suis étudiant à l'île 3 en L1 d'histoire.
D'accord, donc aujourd'hui ces manifestations contre le plan étudiant, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement pourquoi tu t'opposes à cette mesure
Parce que cette mesure au final ça va permettre de jarter en fait la plupart des lycéens en fait qui veulent entrer en fac dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas en fait qui vont pas pouvoir être acceptés parce que ça va être juste impossible à gérer aussi administrativement et qu'ils vont faire des quotas et qu'ils vont devoir sélectionner. L'administration va pas pouvoir gérer ça et au final ça va être en plus par option, c'est-à-dire que c'est plus le bac, ça va être par option, et ce qui veut dire en soi que c'est par rapport à quel lycée tu as pu faire, donc à quel lycée pour avoir de meilleures options, de meilleures matières à proposer, que tu vas avoir une meilleure fac ou une meilleure université en soi. Ce qui veut dire que ça, l'égalité des chances est plutôt respectée. Au final, c'est à celui en fait qui a les parents les plus aisés, qui a pas l'air de le pouvoir amener en fait dans les lycées les mieux cotés, qui va pouvoir avoir les meilleures études.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis quel corps de secteur vous représentez ?
Aïssa. Nous, personnellement, on est dans le service public de l'emploi, donc plus précisément le Pôle emploi, donc qui est quand même l'outil, le bras armé de la politique publique au regard de l'emploi. Et voilà, aujourd'hui, on est ici au même titre que les autres services publics, puisque nous sommes une entreprise de mission de service public.
Donc quels sont les enjeux aujourd'hui ? Pourquoi vous défilez ce 22 mars ?
Je crois qu'il faut avoir conscience que l'événement, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que véritablement, je pense que l'État est en train d'envoyer un message à tous. Nous nous désengageons, débrouillez-vous individuellement. Or, je dirais, ce qui fait la force d'un pays, c'est justement qu'il y ait un État fort pour des services publics forts. Pour que, justement, que ce ne soit pas livré à des problématiques individuelles. Voilà.
Plus particulièrement, à Pôle emploi, qu'est-ce qui se passe ?
C'est mise à distance des demandeurs d'emploi, un service qui est rendu de manière très éloignée puisque c'est le tout digital qui est prévu. On ne travaille plus avec en fait la personne. Tout est dématérialisé. Donc je dirais sur cet aspect-là, je pense que là encore, la stratégie au bout du bout, ça sera bien justement la numérisation, la digitalisation et la personnalisation des activités pour justement pouvoir opérer plus facilement sur le secteur privé.
Et vous, de votre point de vue, donc vous êtes salarié public de cette structure-là, comment vous, finalement, vous êtes perçu maintenant ?
Aujourd'hui, au niveau du Pôle emploi, il y a deux statuts qui coexistent. Il y a des statuts publics et des statuts privés. Pour autant, ceux qui sont, que ce soit les collègues du statut privé ou public, ce qu'on voit bien là, c'est véritablement notre mission qui est attaquée. Véritablement, c'est-à-dire que là, il y a des moments où il faut rechercher du sens à ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on a des demandeurs d'emploi, on a aussi des employeurs qui souhaitent bénéficier de nos services, et de plus en plus, c'est une distance qui est opérée. Et donc, quasiment parfois, en incapacité d'agir, véritablement. Si ce n'est qu'obéir aux règles statistiques du nouveau management, uniquement faire du chiffre.
En qualité de quoi vous manifestez ? Est-ce que c'est général ou est-ce que vous êtes un professionnel concerné ?
Alors oui, je suis concerné. Moi, je suis éducateur de profession et je suis concerné parce que notre secteur, il est en ce moment visé par le haut ministère à l'économie sociale et solidaire, le haut ministère, donc Christophe Hitchier, qui est en train de dézinguer notre secteur. Et donc là, on a monté un collectif qui s'appelle le Social Déchaîné. Et donc oui, aujourd'hui, on se sent concerné, c'est pour ça qu'on est là. En fait, il y a une offensive là. Des financiers qui en gros veulent marchandiser le travail social. Donc en gros aujourd'hui, là où c'est l'État aujourd'hui qui subventionne les associations qui bossent avec les SDF par exemple ou en protection de l'enfance, dans quelques mois ça sera des privés. Ça sera des privés qui vont investir à la place de l'État avec en contrepartie un remboursement si les objectifs sont atteints et des intérêts.
Ah, c'est le cas avec les fameux hôtels.
C'est ça. Par exemple, oui, c'est ça, exactement.
Est-ce que tu peux me donner ce cas-là ? Parce que ça, c'est assez parlant.
C'est pour Adoma, en fait. Donc Adoma, en fait, c'est un fonds de pension qui a remporté un appel à projet. Voilà, ils ont été moins chers que tout le monde, forcément. Et donc, ils ont racheté les hôtels Formule 1. Voilà, donc là, ils ont commencé à loger des gens. C'est des réfugiés, il me semble, ou des demandeurs d'asile. Mais dans des conditions... Il n'y a pas d'accompagnement social, tu vois, c'est de l'hébergement.
Est-ce qu'il y a des revendications, des objectifs à court terme ?
Nous, notre objectif, il est clair, c'est que l'État continue d'assumer sa mission d'accompagner ceux qui en ont besoin. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en protection de l'enfance, par exemple, où là, dernièrement, les assos ont signé ce qu'ils appellent des CEPOM, des contrats pluriannuels de projet. Et avec des diminutions sur 3 ans de 15%. Voilà. Et ça, c'est la protection de l'enfance. Et donc, c'est notre ambition, c'est de faire reculer cette offensive, de faire en sorte que le travail social reste à la charge de l'État et qu'il ne soit pas investi par les financiers qui n'ont aucun autre intérêt que de se faire, de la thune sur la pauvreté.
Les retraités sont plutôt maltraités en ce moment. Le 1,7% de CSG en plus, ça nous fait une amputation de nos retraites. C'est inadmissible, sachant que les plus fortunés, eux, sont exemptés d'efforts, ils sont exonérés de l'impôt sur la fortune.
On parle également d'une espèce de saupoudrage qui diviserait un peu, qui désunirait la mobilisation. Est-ce que malgré tout, les retraités ont envie d'aller jusqu'au bout ?
Oui, j'en ai entendu parler. 1000 retraités, et pour l'année prochaine. L'année prochaine, on rase gratis. C'est connu, ça. 1000 retraités sur 13,5 millions de retraités. Faites le rapport.
Après ce tour d'horizon des revendications par secteur, et nous nous excusons pour ceux que nous n'avons pas pu interroger, il est important de rappeler que le fait marquant de cette mobilisation est l'unité dans le rassemblement. Unité qui confère davantage de légitimité auprès de l'opinion publique et de poids dans le rapport de force avec le gouvernement.
Aujourd'hui, je suis pas seulement là pour défendre mon statut de fonctionnaire à l'hôpital. Je suis là aussi pour défendre la qualité du service public hospitalier. Je suis susceptible d'être usagée aussi demain. Moi, demain, je suis susceptible d'amener mon père aux urgences et de savoir tout ce qui s'y passe et en tout cas tout ce qui s'y passe pas. Donc, je suis là en tant que fonctionnaire, je suis là en tant qu'usager des services publics, donc potentiellement à l'hôpital, potentiellement les collègues pompiers. Vous allez voir dans la manif que les collègues pompiers sont là, qui vivent exactement la même situation que nous et que plein d'autres. Donc, on est là pour défendre aussi un modèle de service public qui est unique. C'est le modèle français et qu'il faut défendre parce qu'à une époque, aujourd'hui, on nous dit que c'est une tare. Il faut quand même se rendre compte qu'à une époque, le monde nous regardait en disant qu'on avait le plus beau modèle social du monde et le plus beau modèle de santé. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est une tare. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, la véritable question, c'est dans quel monde on a envie de vivre, hein, celui qui nous propose ou celui qu'on est en train de perdre.
Est-ce que, justement, le fait que ce soit interprofessionnel, ça peut peser dans le rapport de force ?
Mais moi, je pense qu'il est toujours possible de faire plier tous les pouvoirs. Dans les plus grandes dictatures du monde, ça s'est fait. La véritable question, c'est comment on va établir un rapport de force. Donc, le fait qu'on soit en interpro, ben, ça permet d'être plus nombreux. Moi, je pense aujourd'hui que l'enjeu, comme je vous disais, je suis là en tant que fonctionnaire, mais je suis là aussi en tant que potentielle patiente de l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut faire basculer, ce qui va être nécessaire, c'est que ça devienne un mouvement citoyen. Il faut que tous les citoyens, je ne leur demande pas de défendre mon niveau de salaire, je leur demande de défendre l'hôpital tel qu'on le connaît, qui repose sur la solidarité, qui a une obligation de continuité, qui a une obligation de résultat vis-à-vis de la population. C'est de cet hôpital-là dont on a besoin, donc défendons-le avant de l'avoir définitivement perdu.
Je constate qu'il y a énormément de secteurs professionnels. Est-ce qu'on ne peut pas croire, supposer une désunion, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont accepter les revendications de tel secteur professionnel et pas d'un autre pour diviser l'union qu'il y a aujourd'hui.
Ils vont peut-être tenter. Après, je crois pas parce que ce gouvernement, il a l'air vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il tape tout azimut, c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui. Voilà, il fait le pari de taper partout en espérant que ça se mobilise pas et que en gros qu'on ne sache plus où aller ou donner de la tête. Et finalement, non, chaque secteur est là. Et je pense pas. Je pense qu'ils vont vouloir aller jusqu'au bout. Et je pense que nous aussi, on va devoir aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire que même si il accepte vos revendications, vous viendrez quand même aux prochaines manifestations pour l'hôpital public ou pour la fonction publique ?
Ah oui, bien sûr. Oui, on continuera à défendre un service public de qualité. La SNCF, la réforme des cheminots, c'est clair. Tu vois, là, je suis éducateur, mais la réforme des cheminots, ça me concerne. Non pas parce que je suis cheminot, mais parce que je suis usager. Et donc, bien sûr qu'on continuera, même si aujourd'hui ils acceptent nos revendications, je crois pas, parce que c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment en marche. Tu vois, Christophe Hitchet, il a un mandat, c'est de faire du travail social un marché comme un autre. Voilà, donc... On va aller jusqu'au bout, on verra.
C'est que par une convergence, en fait, de tous les secteurs d'activité, qu'on va pouvoir réussir en fait à vraiment faire reculer le gouvernement, parce que là actuellement le gouvernement il attaque sur plein de sujets en même temps, les EHPAD, il attaque sur les cheminots, il attaque nous, il attaque aussi sur l'immigration aussi, il attaque les chômeurs, et c'est seulement avec une réunion en fait de toutes ces forces là qu'on pourra vraiment réussir à faire quelque chose. Mais j'espère oui qu'on va réussir à faire reculer le gouvernement, mais pour l'instant c'est, cette manif-là, elle a l'air d'être bien, et c'est la première fois depuis un petit moment, depuis aller au travail, clairement, en fait, qu'on voit un mouvement comme ça. Et faut espérer juste que ça continue, en fait, semblant.
Ça continuera jusqu'où? Est-ce qu'on va bloquer les facs?
Faut espérer. Pour l'instant, on est en train de faire monter le mouvement. Ça commence à prendre, et on espère, oui, pouvoir aussi bloquer les facs d'ici peu, en soi.
Bien sûr, il faut encourager cette unité interprofessionnelle et même intergénérationnel, parce que le gouvernement essaye de diviser les Français pour que lui puisse mieux régner et appliquer sa politique d'austérité. Voilà.
Vous allez continuer à vous mobiliser dans les prochains jours, les prochains mois ?
Bah écoutez, nous, de toute façon, on est mobilisés très honnêtement depuis, je dirais, les lois de travail, hein, puisque tout ça est annoncé. On voit bien que tout ça est un ensemble qui est bien pensé. Aujourd'hui, le service public, mais hier, sur la loi travail, on voit bien que le marché est dominant et la volonté de tout privatiser, et je dirais que ce soit aujourd'hui des services comme l'emploi, mais aussi, on le voit sur la santé, sur le ferroviaire, donc évidemment que la mobilisation, elle va continuer.
N'essayez pas d'avancer pas à pas. Définissez clairement vos objectifs et approchez-vous-en par bond en avant qualitatif afin que les intérêts catégoriels n'aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est essentielle, vous n'irez jamais trop vite. Une fois que l'application du programme de réforme commence, ne vous arrêtez plus avant qu'il soit terminé. Le feu de vos adversaires perd en précision quand il doit viser une cible qui bouge sans arrêt. Dixit René Douglas en novembre 1989 en Nouvelle-Zélande, cité par Serge Halimi dans le dernier numéro du Monde diplomatique. C'est bien cette stratégie du choc qu'emploie le gouvernement en frappant tous azimuts, comme le dit l'un des manifestants rencontrés. En frappant dans tous les secteurs d'activité de la fonction publique et en poursuivant l'application des mesures de la loi travail au service public, c'est bien une démobilisation ou une neutralisation que recherchent ces réformes dans l'urgence. Que cette mobilisation réussie démente le procédé, cela reste à voir. Prochaine grève et manifestation en avril, grève que les cheminots annoncent dure. C'était un reportage de Luc Chaden pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.